Oui. Eh bien, bonjour. Je sais pas si on m'entend. Ouais, parce que j'ai pas trop de bêtises. Voilà, bon, je vais me présenter parce que je pense que je suis un peu un illustre inconnu ici. Voilà, en fait, je suis enseignant de secondaire et en université, en particulier donc pour la didactique des langues, qui est la principale formation que j'ai eue. Et pour mon parcours holistique, à part avoir joué, en fait, j'ai surtout participé à des projets en tant que relecteur système, en fait, sur les féales, en particulier sur Chronique des féales, et en tant qu'illustrateur aussi. Sur des scénarios voilà, publiés de manière officielle, en fait, mais pas des scénarios édités. En fait. Voilà, donc moi, je suis pédagogue, je vais vous parler de la pédagogie dans le jeu de rôle. Donc, en fait, pas l'idée d'utiliser le jeu de rôle pour faire de la pédagogie, mais qu'est-ce qu'il y a de pédagogique dans le jeu de rôle, en fait. Voilà. Donc j'ai un titre à rallonge, mais en fait, c'est assez simple. Voilà, je vais vous parler un petit peu d'avoir qu'est-ce que c'est une situation pédagogique pour vous montrer qu'en fait, finalement, dans le jeu de rôle, ce qu'on fait, c'est de la pédagogie, en fait, finalement. Ensuite, je vais détailler les processus qu'on utilise sans s'en rendre compte, en fait, justement pour les rendre conscients et pour arriver à ma troisième partie, en fait, où je vais vous montrer qu'en fait, c'est utile de les rendre conscients, de les utiliser en fait en permanence parce que ça permet de faire en sorte que les joueurs développent en fait leurs compétences de joueur, si je puis dire. Et que donc du coup ils deviennent des meilleurs joueurs finalement, et vous aussi. Voilà, c'est un peu pamphlétaire, mais bon. Donc juste des petites précisions sémantiques parce que je vais utiliser un petit peu de vocabulaire pédagogique, quoi. Donc tout le monde n'est pas forcément, je savais pas trop à qui je m'adressais, donc je préférais être clair. Donc quand j'ai parlé de pédagogie, j'avais vraiment parlé de ce qui s'applique à la relation entre l'enseignant, donc là les gens qui enseignent ou le rôle qui enseigne et le rôle qui apprend. La didactique, donc c'est quand on transforme le savoir brut en fait en savoir qui se transmet en fait, hein. Et tout ce que j'appelle, ce qui est appelé, parce que c'est pas moi qui l'appelle comme ça, la métacognition en fait, c'est quand on réfléchit sur comment on apprend en fait, comment on sait quelque chose. Voilà, donc mon postulat de base en fait, c'est que pour pratiquer le jeu de rôle en fait, faut bien avoir une compétence en fait. Donc cette compétence, elle est à la fois faite de savoir, on sait des choses sur le jeu de rôle. Par exemple, connaître un petit peu l'univers, le système de règles en fait. On a des savoir-faire, des techniques en fait qu'on met en place, comme faire du RP. Écrire un scénario quand on est MJ, en fait, tout ça, ça relève du savoir-faire. Et enfin, on a des savoir-être, donc des attitudes qu'on adopte pendant une partie du jeu de rôle. Donc, s'insérer dans la dynamique de groupe, par exemple, ou gérer, en fait, la relation avec les autres, ça fait partie du savoir-être. Donc, en fait, tout ça, ça va constituer ce que j'appelle le savoir-jouer, c'est-à-dire cette connaissance métacognitive. Donc, on réfléchit, finalement, sans s'en rendre compte, à comment on joue, en fait. Et à force, on a développé en fait une idée de qu'est-ce que c'est jouer en fait avec le temps. Et d'ailleurs, cette idée-là, elle est très différente d'un participant à l'autre en fait. Dans l'idée, en fait, quand on pose la question à des joueurs, généralement, quand on leur dit comment tu as appris à jouer, c'est très vaste en fait, et surtout en fait, c'est surtout basé sur la pratique. Oui, je me suis lancé et j'ai appris sur le tas un petit peu avec l'expérience. Alors, c'est vrai, c'est une partie de la chose, en fait, mais c'est pas uniquement ça. Et cette expérience-là, en fait, finalement, elle a été gagnée parce qu'il y a eu des procédés pédagogiques qui ont été mis en place, voilà, finalement, sans qu'on s'en rende compte. Et je pense qu'on a tous expérimenté le fait qu'en fonction des tables où on a été, quand on a appris le jeu de rôle, on a appris plus ou moins vite ou plus ou moins bien, on a développé nos compétences très très différemment, quoi. Des fois, je pense qu'on a eu l'impression de faire des bons de géants, et des fois, dans les parties, de stagner, d'avoir l'impression que ça, on sait déjà le faire, passons à autre chose, en fait, finalement. Donc tout ça, en fait, ça se développe finalement et ça se met en place. Et moi, mon idée, c'est donc justement quelle forme ça prend en fait, dans le jeu de rôle, et puis comment finalement engager les participants du jeu de rôle dans la pédagogie entre eux, finalement, pour développer leurs compétences. Voilà. Donc, ma première partie, en fait, c'est finalement, qu'est-ce que c'est, en fait, définir une situation pédagogique, en fait. Donc, bah, voilà. J'ai de base, en fait, une situation pédagogique, ça a été défini globalement comme étant une situation dans laquelle, une situation, un contexte dans laquelle, en fait, il y a des processus d'enseignement et d'apprentissage. Bon, c'est facile à dire. Plus en détail, en fait, c'est une situation dans laquelle vous avez un sujet, voilà, qui acquiert en fait un objet de connaissance, en l'occurrence, ou d'apprentissage, sous la responsabilité d'agent. Alors, on généralement dit un agent, mais moi, je pense qu'il y en a plusieurs, en fait. Hein. Et tout ça, tout, enfin, l'agent, en fait, enfin, les agents tiennent compte du milieu dans lequel ça se passe. Donc, si on transpose ça dans le système du jeu de rôle, en fait, ben, le sujet, c'est le participant, hein, peu importe que ce soit un MJ ou un joueur, en fait. Hein, je ne me place pas du tout dans l'idée que le MJ est un enseignant, c'est pas du tout ça, parce que lui aussi, il apprend, hein, le MJ, avec le temps... Il apprend des nouvelles compétences aussi. Donc, le sujet, c'est le participant, en fait, au jeu de rôle. L'objet, bah, c'est le contenu ludique. C'est pas forcément le jeu en tant qu'objet livre, hein, mais c'est tout ce qu'on va mettre en place dans le jeu, en fait. L'univers, les règles, les rôles que propose le jeu, tout ça, en fait. Les agents, en fait, alors, ils peuvent être assimilables aux meneurs, naturellement. Ils peuvent interagir, être le responsable plus ou moins du phénomène pédagogique, mais pas forcément. Ça peut être aussi des aides de jeu, les ouvrages en fait, de jeu, les sites qu'on va consulter. Enfin, tout ça, en fait, ça agence en fait, notre connaissance de ce qu'est jouer. Et enfin, le milieu, ben, ça correspond dans le cadre du jeu de rôle au cadre ludique en fait. Hein, c'est-à-dire ce qu'on pratique en club, entre amis, en convention, sur Skype, que sais-je encore. Puisque en fait, ça correspond aux moyens humains, matériels, financiers, spatiaux en fait, dont on dispose finalement dans la situation de jeu en fait. Voilà. Et tout ça, ça va vraiment influer sur la manière dont on s'approprie notre compétence de joueur en fait. Voilà, donc ça va être ma référence pendant tout mon travail. Enfin, peut-être que certains en sont familiers, en fait. Hein. Donc c'est le triangle pédagogique en fait, de Jean Housset. Jean Housset, c'est un pédagogue qui a formalisé en fait, les relations d'enseignement dans son travail, sous cette forme magnifique de triangle. mais voilà, moi j'essaie de voir qu'est-ce que je pouvais en prendre pour le transposer en fait, justement, au jeu en fait, et voir qu'est-ce qu'on en dégageait un petit peu en termes pédagogiques. Donc, il y a trois pôles, en fait, dans le jeu. En fait, il y a le pôle meneur. Alors, je précise bien, ce n'est pas la personne. En fait, c'est un pôle de responsabilité ou d'activité, si je puis dire. Ça ne veut pas dire forcément, en fait, que c'est attribué à une seule personne, en fait. Voilà. C'est les responsabilités de meneur, les responsabilités de joueur, en fait, si je puis dire, et le contenu ludique. Donc là, que j'ai un peu plus détaillé, c'est-à-dire, donc, ça comprend l'univers, les règles, les rôles que propose le jeu, la couleur du jeu, en fait, hein, voilà, son ton, son propos, et en fait, le niveau de réalisme qu'il met en place donc dans sa dynamique. Ces trois pôles, ils sont liés par donc trois axes, l'axe de transmission, l'axe d'apprentissage et l'axe de formation. Alors du coup, à la base, Housset, en fait, transmettre, il l'appelle enseigner, et former, il dit juste former, il ne précise pas se former, en fait, voilà. Donc j'ai adapté parce que je pense que transmettre, c'est pour faire le distinguo avec une situation pédagogique, parce que quand même, le but in fine, en fait, d'une situation de jeu de rôle, c'est pas d'apprendre à quelqu'un à faire quelque chose. C'est un corollaire, en fait, mais le but, c'est quand même de faire, avant tout, de créer une situation ludique, intéressante, de partager des moments ludiques, c'est pas l'enseignement. Donc du coup, je pense que transmettre correspond plus à ce qu'on fait, finalement, sans s'en rendre compte, des fois. Et se former, parce qu'il y a Bon, tous les axes là, ils sont à double sens, mais celui-là, je pense qu'il faut vraiment insister sur l'idée qu'il est vraiment à double sens, parce que les interactions, enfin voilà, la relation entre le pôle meneur et le pôle joueur, en fait, elle est à double sens. Hein. C'est-à-dire que le pôle joueur va vraiment influencer sur le pôle meneur et vice versa. Voilà. Donc je vais passer à la suite, mais il faut vraiment garder ça en tête, puisque là je vais vous détailler un petit peu qu'est-ce que je mets derrière transmettre, apprendre et se former en fait dans la partie de jeu de rôle. Donc voilà, donc le processus se former, on retrouve en fait tout ce qui a trait donc au processus d'animation, aux interactions relationnelles entre les participants du jeu de rôle en fait. Donc derrière ces mots un petit peu compliqué en fait, c'est surtout en fait l'idée de comment on échange finalement dans le jeu de rôle en fait. Naturellement, il s'agit de former en prenant en compte les besoins, les rythmes, les pratiques et les personnalités en fait des participants. C'est pas une formation comment dire ça, imposé ou quoi que ce soit, en fait. Je pense que tout ça, on s'en rend compte très intuitivement, mais justement, le but ici, en fait, c'est de le rendre concret et conscient, surtout. Donc, on remarque surtout que se former, en fait, c'est des moments qui sont, enfin, c'est des moments qu'on acte majoritairement dans le jeu, naturellement, mais aussi hors du jeu, en fait. Hein, c'est-à-dire, il y a des échanges qui se font dans le cadre de la partie et beaucoup d'échanges, en fait, qui se font aussi dans des situations qui entourent le jeu, en fait. Hein. Voilà. Donc, ces procédés, en fait, s'ils favorisent donc l'acquisition de cette compétence-là, savoir jouer. Grâce à ce qui est appelé l'interaction socio-cognitive, donc très un mot, voilà, c'est pareil, c'est un peu de la théorie en fait, mais grosso modo, en fait, c'est l'idée qu'on va construire une connaissance en interagissant en fait avec des gens dans une situation sociale, ce qui, je pense, correspond bien à ce qu'on fait dans le jeu de rôle en fait. Voilà, on va confronter nos cognitions, nos savoirs, nos visions du monde en fait, ou du jeu en l'occurrence, avec celles des autres, et ça va reformuler celles-ci. On va reformer nos acquis. En fait, je pense que ça nous est tous arrivé en fait, de se dire « Ah oui, en fait, finalement, genre, j'avais jamais joué comme ça. En fait, c'est nouveau, cette mécanique ou cette façon d'aborder le RP ou la narration. » Et donc, du coup, ça, en fait, ça nous permet en fait, de créer de nouveaux outils en fait, finalement, dans notre panel de compétences. Voilà. On va aussi revalider, par exemple, nos connaissances sur notre positionnement. En fait, c'est-à-dire qu'on va voir dans l'échange, dans l'interaction socio-cognitive, on va revoir nos positionnements. En fait, c'est-à-dire que c'est vraiment cette action qu'on fait de valider en fait les positions des autres dans la narration ou dans la fiction co-construite. Voilà, on va reparler de nos responsabilités, au fait aussi. Ah bah tiens, là, pendant cette scène, tu peux narrer un peu plus en fait autour de ton personnage. Voilà. Et on va aussi, ça, on s'en rend compte très très facilement avec des approbations, des négociations, de la suggestion. On va accompagner des choses comme la qualité du roleplay ou une interaction, une suggestion en fait qu'un joueur va faire en fait. Justement, tout le monde va être captivé, on va voir ça se voit physiquement en fait, on voit vraiment les hochements de tête, tout ça en fait qui se passe, tout ça en fait c'est de l'interaction socio-cognitive finalement. Donc ça c'est en jeu, mais à l'extérieur du jeu en fait ça comprend aussi tout ce qui est en fait échange par forum, restitution en fait de ce savoir là sous d'autres formes, sous forme de wiki, de gens qui viennent de sites ou de conférences par exemple. Donc c'est vraiment l'idée, c'est de mettre à distance en fait, on voit bien que les joueurs en fait, enfin les participants plutôt, ils adoptent une mise à distance en fait analytique hein, de leur pratique de jeu en fait, de la manière dont ils appréhendent leur contenu mentaux en fait sur ce qu'est le jeu en fait. Voilà, du côté du processus transmettre, alors là en fait c'est la position du meneur de jeu en tant que responsabilité en fait, voilà, tous les choix en fait qu'il fait en fait en termes de transposition didactique. Alors, comme je l'ai dit, didactique, c'est comment il transpose ça en contenu qui s'apprend finalement. Donc il va analyser le contenu, le meneur de jeu, et il va trouver des bonnes idées, en fait, entre guillemets, pour transposer ça et le rendre accessible aux gens qui occupent la position de joueur. Donc ça se fait donc par ses choix didactiques, il choisit des objectifs, hein, c'est bête, mais c'est ce qu'on fait, hein, finalement, on va choisir un thème, un scénario, une situation initiale, comment la situation elle va évoluer, en fait, ce qui va donc du coup revenir très globalement à fixer des objectifs pédagogiques et choisir des techniques, en fait, voilà. Donc là, on est bien dans, par exemple, une idée qu'en fait, on développe un savoir-faire. On a tous été MJ, j'imagine. En tout cas, on a pu voir des MJ qui, au début, ne savaient pas du tout en fait, se positionner face à ses choix. Et finalement, à force, ils devenaient très bons pour ça, en fait, ou meilleurs, en tout cas. Ensuite, il va avoir l'idée de... Le MJ va... Enfin, la position de meneur de jeu va avoir à structurer, en fait, ce contenu ludique. Donc, structurer, c'est trouver, en fait, des formes intéressantes en fait, voilà, c'est-à-dire sous quelle forme je le mets, est-ce que ça va être stimulant, attrayant en fait dans la situation de jeu, donc des aides de jeu immersives, des images ou des supports visuels ou auditifs par exemple. Quand on choisit de la musique, c'est bête, mais en fait c'est ce choix là en fait qu'on fait, en fait on se pose dans cette position là et je pense qu'en fait tous les MJ n'ont pas commencé en fait en se disant genre ouh, je sais exactement quelle aide de jeu et quelle musique, genre voilà, je vais faire une ce que j'appelle une masterisation cinématographique d'emblée, hein. Généralement on tâtonne beaucoup au début en fait, donc ça c'est de l'apprentissage aussi qu'on fait généralement parce qu'on a vu sur je sais pas tel forum ou qu'on a échangé avec tel autre MJ en fait qui nous dit ah mais ça existe, donc voilà, on gagne en compétences aussi. Et aussi en fait donc ce processus donc il se fait en amont du jeu en fait dans la préparation du jeu mais aussi, en fait, il se fait au travers du contenu lui-même. C'est ce que je mets quand je dis dans le contenu également. C'est-à-dire qu'en fait, bah, on remarque dans les ouvrages de jeu, enfin, dans le jeu, dans la situation, le contenu ludique, bah, le contenu, il peut être lui-même, en fait, il peut aider ce processus-là. Quand vous avez des chapitres d'aide au MJ à la fin, c'est exactement ça, en fait. On vous donne, en fait, finalement, des conseils, en fait, pour affiner ce processus, le rendre plus facile. Donc, des aides à la mise en scène, à l'animation, justement, on vous donne des scénarios de base. Tout ça, en fait, finalement, c'est pour vous aider à gagner cette compétence-là de transmission. Et au final, les processus d'apprentissage, si je vais apprendre, donc c'est tout ce qui est les procédés qui permettent aux joueurs, en fait, aux pôles joueurs, de s'approprier, en fait, et de construire... en fait, autour du contenu ludique et de manière autonome, c'est-à-dire sans l'aide justement du rôle MJ, en fait. Par exemple, en fait, bah, quand vous avez un livre dont vous êtes le héros, en fait, il n'y a que ce processus-là, en fait, avec un tout petit peu de MJ sous la forme, en fait, du... on va dire des conseils encore. Techniquement, il n'y a pas d'agent, en fait, qui vient, en fait, aider le joueur, en fait, en tout cas d'agent humain. Donc ces procédés-là d'apprentissage, en fait, ils sont actés, en fait, dans le jeu, naturellement, en fait, et en amont du jeu. C'est-à-dire, en fait, ils sont actés dans les tâches que le joueur y réalise. Hein, c'est-à-dire, quand il réalise les tâches de joueur, si je peux dire, bah, finalement, il est en train de réfléchir à comment il manipule ce contenu-là ludique, un petit peu. Mais aussi, en fait, dans les activités autour de la partie. Donc c'est toujours pareil, en fait, quand on a des échanges ou quand il va réfléchir en dehors de la situation de jeu sur qu'est-ce qui se passe en termes de comment il apprend, en fait, finalement, le jeu de rôle, en fait, ben, là, il fait ce processus-là. En fait. Donc, ça se décline sous la forme des recherches que le joueur peut faire. Alors, recherche, c'est très vaste. Hein, ça peut être juste lire, par exemple, le livre de règles, en fait, pour apprendre des choses dessus. Ou aller, par exemple, c'est assez fréquent dans les jeux de rôle contemporains occultes, en fait, aller faire des recherches historiques, en fait, pour agrémenter, en fait, sa connaissance de personnage. Ben, là, on est là-dessus. Il va faire des constructions analogiques, c'est-à-dire qu'en fait, quand il va s'approprier le contenu, en fait, du jeu de rôle, à la base, en fait, il arrive sans trop, si c'est un jeu vraiment nouveau, c'est toujours un jeu nouveau d'ailleurs, en fait, si on n'a pas entendu parler avant, il va se servir de ce qu'il sait déjà, en fait, pour construire finalement la connaissance nouvelle. Quoi. Donc, quand on vous dit, je donne un exemple que je maîtrise, donc Chronique des Fées, c'est un jeu médiéval fantastique. Bon, déjà, en fait, je me base, hein, sur les analogies que le joueur peut faire. Déjà, il imagine des châteaux et un monde avec des épées, en fait. Voilà, donc, grosso modo. Après, en fait, on va rajouter par-dessus ça, en fait, pour créer des analogies. Mais si je lis tout de suite, en fait, c'est un monde avec des féales. En fait, personne ne sait de base ce que c'est un féal. Il va falloir que je construise analogiquement ce que c'est ce concept. Il va aussi réfléchir au rôle, en fait, qu'il a dans la situation. Alors, pas pédagogique, parce que moi, je viens de voir qu'en fait, c'était ludique que j'aurais dû mettre. Donc, en fait, finalement, qu'est-ce que le jeu de rôle lui propose un rôle, quoi, en fait. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire, finalement? C'est comme quand on vous a dit, si vous avez été élève, j'imagine, on vous a dit, en fait, là, ce que tu dois faire dans cette activité, c'est ça, en fait. Bon, après, vous vous dites, ok, alors je dois réagir, faire cet exercice-là, qu'est-ce que je vais mettre, comment je vais me positionner, qu'est-ce que je vais mettre en place? En fait, un joueur, il fait exactement la même chose. On lui dit, tu es un guerrier barbare, qu'est-ce que je dois faire avec ça? C'est sûr que je vais pas aller dans des bibliothèques, donc ça, j'oublie. Voilà. Donc, il va réfléchir sur quel est son rôle dans la situation, finalement. Et enfin, pareil de la même manière, en fait, que la situation, le processus transmettre, il était aussi contenu dans le contenu ludique, c'est pareil, le processus apprendre, on le voit, en fait, il est dans le contenu ludique, c'est-à-dire dans les chapitres, par exemple, de création de personnages guidés, un peu, je sais pas, à la White Wolf, en fait, où finalement le joueur, il pourrait faire sa création de personnages sans l'aide du MJ, en fait, on voit bien que le contenu, il a mis en place, en fait, des aides pour faciliter ce processus d'apprentissage. Tout ce qui est aussi guide du joueur, en fait, qu'on peut voir dans plein de jeux, je pense à Fading Suns ou à Capernaum, qui ont fait ce genre de petits livrets, en fait, si je puis dire. Là aussi, c'est pareil, c'est finalement le MJ peut laisser, en fait, le joueur se débrouiller avec ça, et en fait, on va lui donner tout ce qui comprend sa tâche dedans, en fait. Et pareil, tout ce qui est mécanique incitative dans le contenu de jeu, ça peut amener le joueur à adopter des comportements de jeu spécifiques qui vont enrichir sa pratique de jeu. C'est-à-dire, avant d'avoir une mécanique qui m'oblige à, modifier la narration en cours, je n'y aurais peut-être jamais pensé avant, en fait, finalement. Voilà, j'aurais jamais... J'ai appris une nouvelle chose, en fait, grâce au contenu ludique. Voilà, donc ça c'était pour clarifier un petit peu les trois procédés. Maintenant, en fait, qu'est-ce qui nous amène ? Pourquoi en fait c'est intéressant de se replacer dans une optique pédagogique en fait quand on fait du jeu de rôle ? Pour plusieurs raisons, en fait. C'est-à-dire que de base, en fait, on remarque, c'est assez évident ce que je veux dire en fait, mais finalement, quand on développe ce savoir jouer, là, cette compétence, après, on a une meilleure expérience de jeu en fait, que ça soit pour nous, mais aussi en fait ce qu'on donne aux autres, qu'est-ce qui se crée en fait avec les autres personnes dans la situation de jeu. Donc, en fait, je pense que cette pédagogie, il ne faut pas spécialement en faire l'économie et penser en fait qu'elle va de soi, en fait, parce qu'au contraire, en fait, elle va être excessivement pertinente en fait dans l'idée de développer des situations intéressantes. Je pense qu'on a tous aussi expérimenté de revenir alors qu'on a fait beaucoup d'apprentissage justement et qu'on considère qu'on a acquis des techniques avancées de ludisme, enfin, de jeu de rôle, de revenir par exemple dans le cadre d'un jeu avec des gens qu'on considère débutants. Généralement, c'est un peu difficile en fait. On se rencontre, on a l'impression de travailler en vitesse TGV là où c'est de l'intercité à côté en fait. Donc il y a vraiment cette idée que travailler en fait avec un niveau de compétence adéquat, en fait, ça augmente le plaisir de jeu quand même. Donc finalement, en fait, on le fait de manière intuitive. C'est-à-dire quand on crée un contrat ludique, on va jouer à tel jeu ensemble. En fait, inconsciemment, on définit des procédés pédagogiques. En fait, on les met en place en fait parce que, pour vous donner un exemple. Si vous mettez en place un groupe qui échangera beaucoup sur ces pratiques, en fait, vous allez être dans un processus de formation très fort, en fait, voilà. Et donc, du coup, sans vous rendre compte, vous êtes en train de mettre en place des processus d'apprentissage, basés en fait sur l'échange. Voilà. Si on va avoir des groupes, par exemple, qui sont plutôt dans l'appropriation directe du savoir, avec un MJ qui va dire moi, j'ai pas envie de t'expliquer le jeu, vas-y, prends le livre et puis fais ton personnage et quand tu reviens, je valide, quoi. Grosso modo. Mais il y a pas d'échange. On est en autonomie là en fait. Voilà, il y a plutôt des groupes où le MJ est extrêmement didactique au contraire en fait, presque même trop des fois en fait. Donc finalement, sans s'en rendre compte, on le fait déjà en fait, et on se positionne dans des angles du triangle comme ça en fait. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on voit que on se positionne trop dans un angle au détriment d'un autre, parce qu'une situation pédagogique équilibrée, elle prend en compte les trois points. Donc mon but en fait c'est de montrer aussi que cette pédagogie en fait elle va influencer donc sur notre activité comme je disais, et cet apprentissage on le réinvestit directement en fait dans les parties en fait. Ma dernière petite partie en fait elle est plus pratico-pratique, c'est-à-dire j'essaie d'adapter des idées de la pédagogie en fait pour essayer de favoriser en fait cette acquisition là, vous donner des pistes un petit peu en fait. Moi j'ai une approche de la pédagogie qui est assez pamphlétaire, je dirais que je me place plutôt dans le pôle se former en fait plutôt que dans les autres, mais je vais essayer de me déplacer un petit peu. Donc en fait il y a un vrai engagement, ça c'est pour faire aussi pareil le lien avec le thème de la conférence, mais il y a un vrai engagement à faire en fait de la part du MJ en fait, mais aussi des joueurs, enfin des participants dans cette idée là en fait, puisque en mobilisant leurs idées justement ils vont pouvoir acquérir un peu mieux de savoir jouer. Donc déjà en fait je pense qu'il faut changer en fait le rapport qu'on a en fait dans la situation de jeu avec l'erreur et l'évaluation, parce que alors ça semble simple dit comme ça, mais en fait on se rend pas compte, on canalise en fait plein de manières de se positionner pédagogique en fait qu'on a acquises dans l'enfance dans le jeu de rôle en fait, hein. Genre si vous avez eu un enseignement en fait généralement une pratique scolaire dans votre vie très cadré, en fait, il y a tendance à dire que vous allez apprendre des choses que vous savez à peu près de la même manière, en fait. Donc, justement, moi, j'essaie de montrer qu'on peut faire d'autres choses, en fait, que ce qu'on a appris de base. Donc, reconnaître, en fait, voilà, l'erreur comme une information et pas une faute, en fait, c'est-à-dire que, par exemple, on remarque que c'est pas le cas dans la plupart des jeux de rôle traditionnels, que vous avez un système d'expérience qui, en fait, récompense de base, en fait, ceux qui ont fait du RP et pas les autres, vous êtes en train de pointer ceux qui l'ont pas fait en disant boubou, toi, tu es pas bien, en fait, tu es un mauvais joueur, en fait, finalement. Voilà, la preuve en est, tu as moins de points d'expérience à la fin, tu as une moins bonne note, en fait, finalement. Donc, remodifier ça, ça reste... déjà, selon moi, c'est déjà une énorme chose. Je sais qu'il y a des jeux qui le font, en fait, déjà, que c'est pas... Que je suis peut-être en train un peu d'enfoncer des portes ouvertes, mais je pense que l'avoir en conscience, c'est toujours utile. Donc, transformer aussi le rapport à l'évaluation, en fait, dans le jeu de rôle, en fait, qui qui est donc, comme je disais, cadré par cette grille en fait d'expérience. En fait, je pense qu'on pourrait mettre enfin essayer d'aller vers quelque chose qui est vers l'auto-jugement en fait, et le jugement par les pairs, un P-A-I-R-S. Voilà, c'est-à-dire le groupe en fait, un système d'expérience de groupe. Je sais que par exemple dans des jeux comme Dieu Ennemi, c'est fait en fait déjà. Les autres joueurs en fait vont créer en fait, enfin vont être maîtres de l'expérience donnée aux uns et aux autres. La deuxième chose, c'est donner du sens au savoir jouer qui vient d'être acquis. Donc, c'est l'idée que apprendre de toute façon à la base, c'est donner du sens aux choses. Donc dans le jeu, en fait, ça serait l'idée de mettre en place des situations qui donnent du sens à un aspect du contenu ludique. C'est-à-dire qu'un joueur RP très éloigné des règles, parce qu'il va vous dire, ah, même ça, c'est trop abstrait, j'ai jamais été trop matheux, ou les systèmes, ça me saoule. Bon, on entend le joueur derrière souvent qui est très, qui a pas, enfin, qui, voilà, je dis des bêtises, mais qui a souvent, ça l'intéresse pas. Alors, ça peut être pour des raisons personnelles ou des raisons parce qu'il a eu un mauvais rapport aux maths dans sa vie. Voilà, mais l'idée c'est d'essayer de le ramener vers ce système, par exemple, en fait. Donc, par exemple, on peut faire en sorte qu'il peut s'y intéresser, qu'il puisse s'y intéresser, si l'acquisition du système va favoriser ou soutenir un aspect concret et direct du RP. Donc, s'il y a des mécaniques de prise de parole, ou si on lui donne à jouer en fait un PNJ avec un petit pôle technique. En fait, tu dois gérer aussi le petit pôle technique de ce PNJ. Déjà, en fait, on peut voir qu'il peut avoir une acquisition progressive du système de règles, en fait. Dans donner du sens, il y a aussi l'idée de coupler en fait les motifs, enfin, l'aspect émotionnel du savoir avec l'aspect cognitif, c'est-à-dire purement savoir et intellectuelle appropriation, puisque de base on apprend quand on vit un plaisir fort. Hein. C'est une réalité, je pense que voilà. Apprendre quelque chose qu'on n'aime pas, on a tous vécu ça, en fait, généralement, on donne de notre temps, mais on ne peut pas donner en fait, de notre attention, ça n'existe pas. Donc du coup, ça peut se faire, par exemple, dans le rappel d'une mécanique ou d'un point de l'univers, en fait, si vous le faites manipuler, en fait, pendant un instant qui va être chargé, très chargé émotionnellement. C'est-à-dire, par exemple, une scène terrible, en fait, dont l'issue, en fait, ne peut se régler que si, en fait, le joueur, en fait, s'investit dans la manipulation du système, pour reprendre mon exemple d'avant, ça va l'amener à se dire, ah ouais, mais en fait, là, c'était vraiment très, très utile de savoir comment je gérais ce système-là à ce moment-là, en fait, parce que ça m'a fait vivre quelque chose de très fort. Ensuite, on peut aller donc dans une réflexion sur apprendre à apprendre. Voilà. Donc l'idée, comment les participants en fait vont réfléchir sur la manière dont ils s'approprient ce savoir justement. Donc c'est approprier les outils même du métier de participant en jeu de rôle et avoir une réflexion là-dessus. Donc on peut ça se voit dans des choses comme suggérer à un joueur par exemple qui a tendance à oublier des aspects du contenu ludique. Donc par exemple le joueur à qui vous devez rappeler une énième fois que le roi de machin truc en fait il a fait ça politiquement en fait en temps, c'est saoulant au bout d'un moment en fait. Donc on peut lui suggérer des processus pour qu'il réfléchisse à comment il pourrait justement apprendre ça mieux en fait. Bon, par exemple, je sais pas, lui suggérer de prendre des notes par exemple en fait, mais c'est bête, mais genre il y a des joueurs qui sont réfractaires à ça en fait, mais ça leur serait utile au final en fait, et leur montrer que ça leur permettrait de mieux apprendre, c'est déjà un pas pour eux, je pense. Encourager aussi un participant à mieux se connaître en fait pour affiner son RP, mieux développer ses espaces de créativité en fait. Voilà, si on lui fait réfléchir, mais attends, qu'est-ce que tu penses vraiment que ton personnage il réfléchit, de facto après en fait il va avoir plus d'idées quand il va avoir des espaces de créativité justement. On peut aussi les accompagner dans leurs propositions créatives, en fait, en lui donnant des éléments en fait du jeu, par exemple en lui disant tiens là t'as une super bonne idée en fait, d'aller voir tel groupe en fait d'influence dans cette ville en fait, tiens je te donne carrément un élément du livre en fait, du contenu en fait, pour que tu brodes autour en fait finalement. Donc voilà. Là, il va réfléchir sur « Ah ouais, en fait, finalement, j'ai du contenu. Comment je vais faire pour le mettre en scène, justement ? Comment je fais pour faire de la transmission ?» Donc, je réfléchis, justement, je me place dans le processus de transmission. La décomposition du geste mental, c'est quand on apprend, finalement. Bon, ça, je pense que c'est assez évident aussi. En fait, on peut pas... Mais souvent, on le voit dans les parties de rôle. Jouer, en fait, ou genre pour se battre, en fait, il faut que tu fasses ça, ça, ça et ça. Et généralement, c'est trop. c'est trop d'un seul coup. En fait, ça écrase en fait les participants. Ils ont, je pense qu'on l'a tous vu aussi en tant qu'MJ, c'est impossible d'absorber en fait tout un système comme ça d'un seul coup. C'est hyper décomposé en fait. Et même vous, enfin en tant qu'MJ, vous le redécomposez déjà en fait quand vous le faites apprendre. Donc là, on trouve tout ce qui est les scénarios tutoriels en fait qui vont faire en sorte que les joueurs vont s'approprier très très progressivement des aspects du système ou de l'univers en fait. Voilà, on y va pas à pas en fait finalement. Donc pour retenir un savoir, il y a cette idée derrière en fait que il y a d'abord la perception avec de l'exemple, d'accord, hein. Donc voilà, ça c'est genre tiens, va faire un combat là dans ce scénario tutoriel, premier petit combat. Ensuite il y a l'évocation, donc c'est-à-dire on va faire exister mentalement le savoir en générant de l'image en fait, qu'elle soit verbale, visuelle, auditive, hein, peu importe. Là en fait c'est plutôt en fait le rôle, on va demander au joueur peut-être de commencer à habiller en fait finalement sa création, enfin son jet de dés en fait, si je puis dire, à décrire en fait pourquoi il fait une action, voilà. Et ensuite, du coup, en fait, on va avoir la reformulation. Donc, en fait, finalement, comment il va en fait la ressortir ça et comment il va le réutiliser bien plus tard et plus souvent. En fait, voilà. Donc, ces trois étapes-là, en fait, permettent de décomposer un petit peu, je pense, le geste mental de jouer. Et donc ça rejoint un petit peu l'analogie, ce que je vais vous dire après. La construction donc sur la représentation présente, en fait, c'est l'idée que justement vous allez avoir ces joueurs qui arrivent avec leur représentation à eux, en fait, de ce que c'est jouer, en fait, qu'est-ce que c'est un médiéval fantastique, qu'est-ce que c'est un jeu futuriste, qu'est-ce que c'est tel univers, tel système, telle mécanique. Et donc du coup, en fait, vous pouvez pas faire, enfin, je pense qu'on peut pas faire l'économie en fait d'utiliser ce qui est déjà connu en fait. Malheureusement, on le voit trop souvent justement des idées, parce que bon, je pense qu'il y a un peu la fierté de dire mais non, ce jeu-là, il est pas comme les autres justement. En fait, c'est très très original. Attention, genre, et on se réfère absolument pas à ce qui a été créé avant en fait. Si justement, on se référer à ce qui a déjà été créé, ça serait bien en fait, parce que on n'invente pas, on ne crée pas, on n'apprend pas du néant, en fait. Donc, par exemple, dans le jeu, en fait, il faut vous rapprocher d'images déjà existantes. Si vous donnez un exemple d'action possible avec un pouvoir, par exemple, ou une capacité, ben, vous donnez la possibilité au joueur de créer avec. Si vous lui dites, ben, ça ressemble à telle autre capacité que tu as eue dans tel autre jeu, ou, voilà, par exemple, bon, c'est à peu près pareil que de la télékinésie, ça, en fait. Bon, déjà, il va à peu près avoir un peu plus de vision de ce qui sert. Je pense à ça, parce que, justement, dans certains jeux, les capacités sont décrites très succinctement. Elles ne sont pas sous forme de pavés, de règles hyper techniques qui, au contraire, bah là, en fait, enferment plutôt. Donc, essayez justement de construire avec ce qu'il y a. Et au final, et ça, c'est la règle, je pense, principale, en fait, enfin, le conseil principal, quand on apprend, en fait, derrière, avant tout, avant même, en fait, d'avoir envie d'apprendre une nouvelle chose, en fait, ce dont on a besoin, en fait, c'est de la reconnaissance. Voilà. C'est là, ce qui motive, en fait, l'apprentissage, la reconnaissance de l'estime, en fait, de soi, en fait. Donc, c'est une condition de réussite pédagogique. Donc, c'est une condition de réussite ludique. Voilà. Je dis ça parce que on s'en rend pas compte, mais on le fait aussi assez souvent. La moquerie, effectivement, en fait, comme c'était dit, même si elle est pas que chez les enfants, en fait, hein, finalement. Elle est aussi chez les adultes, en fait, et on a l'impression qu'on se met à distance, mais pas tant que ça, en fait, finalement. Et il y a beaucoup de situations de crise, en fait, vécues, qui ont été créées parce que, justement, ce manque de reconnaissance a été acté dans le jeu de rôle au lieu d'avoir le besoin mis, enfin, le besoin n'a pas été rempli. Donc, les feedbacks, les retours, en fait, positifs, ils sont essentiels dans la situation de jeu, même si c'est... Enfin, pour dire à un joueur, bah, c'était génial ta scène que tu viens de faire ou quelque chose, peu importe en fait. Mais je pense que les acter, les multiplier, en fait, c'est aussi amener à une meilleure acquisition de ce que c'est être joueur et une meilleure acquisition, enfin, et un meilleur plaisir de jeu in fine, en fait. Voilà. Voilà. Donc, j'arrive sur la fin. Finalement, bah voilà. Apprendre à jouer, c'est un vrai apprentissage, en fait. En rendant ces situations-là, ces idées plus concrètes, j'espère vous avoir fait voir que finalement, contrairement à l'idée reçue, en fait, non, on n'apprend pas sur le tas, on apprend avec plein de procédés, en fait, et ces procédés-là, en fait, les rendre conscients, en fait, c'est nous rendre service et rendre service aux joueurs, en fait, qui sont avec nous. Voilà. Merci de votre attention.
Alors, j'imagine plein de questions.
Merci beaucoup pour cette présentation. Moi, ça me donne énormément d'informations à creuser parce que je suis enseignant aussi, forcément, ça me passionne. J'ai une question à propos de, du pôle du meneur de jeu et la notion de transmission. Et je me demandais, puisque tu mentionnes les textes comme agent, est-ce qu'un texte de jeu peut réaliser cette transmission sans avoir besoin de l'intervention de quelqu'un qui prenne le rôle de meneur ?
Oui, alors, mais du coup, on va se retrouver dans le processus d'apprentissage, justement. Parce que s'il n'y a plus ce pôle-là, en fait, d'une ressource humaine, dans ce cas-là, qui transmet, en fait, on est dans une situation où le contenu, il est directement, en fait, vers le pôle du joueur, en fait. Et donc, du coup, c'est le processus d'apprendre.
Alors, je ne pensais pas forcément au contenu, mais plus à la méthode. C'est-à-dire un bouquin qui va te dire, voilà, à ce moment-là, tu vas formuler une description de cette manière-là. C'est-à-dire prendre le rôle didactique, finalement, à l'intérieur du bouquin pour aider à... Enfin, pour réaliser, en fait, ce rôle de transmission. Mmh. À la limite même, pour revenir au livre dont vous êtes le héros dont tu parlais, des textes à lire, quoi.
Oui, bah en fait, il y a un très bon exemple avec Mener des parties de jeu de rôle, hein, qui est un livre de didactique du jeu de rôle, finalement. Enfin, c'est vraiment un livre de didactique JDR, voilà, où on a tous les conseils d'animation, de préparation. Enfin, tout ça, c'est vraiment c'est un manuel d'enseignant, en fait, hein, finalement, ni plus ni moins. Donc là, en fait, pour apprendre à être maître de jeu, enseignant, si je puis dire, c'est ce genre de publication qui va être tous les articles aussi, en fait, qu'on peut trouver en ligne ou pas d'ailleurs, qui en fait donne des techniques de MJ, c'est ça, en fait, finalement. Aussi.
Ouais, c'est encore un peu, enfin, comment dire.
J'ai peut-être du mal à voir.
Ouais. Pour donner un exemple précis, tu peux, je pense à un jeu qui s'appelle Poltergeist, par exemple, de Vincent Baker, dans lequel les participants ont des textes à lire qui vont permettre justement d'assurer cette transmission de l'univers, des règles, etc. Avec un qui a le rôle d'un fantôme, enfin des fantômes de l'endroit, et un autre qui a le rôle d'un explorateur qui cherche à s'échapper. Et avec un certain nombre de choix à faire derrière, et ça va te guider énormément, et presque prendre la place de l'humain meneur, en fait.
D'accord, voilà. Oui. Donc là, en fait, c'est même... En fait, alors, c'est peut-être le pôle, en fait... comment dire ça, en fait ? Moi, ce que je ne connais pas ce jeu, mais ce dont j'ai l'impression là, en fait, c'est qu'en fait, il y a plus de position vraiment, communicante, en fait, du pôle de MJ. C'est, en fait, on suit une méthode, en fait, sans finalement interagir avec le. Donc, en fait, alors, ça serait plutôt le processus d'interaction qui va être au détriment. C'est qu'on va plus trop reconfronter. On va se dire bon. Ça, le contenu, il m'a dit que je fais ça, mon rôle de MJ, grosso modo. Moi, mon rôle de joueur, c'est ça. Et finalement, on se re-questionne peu dessus ça. On suit le flux, si je puis dire. Donc, du coup, là, c'est le processus, justement, de se former, en fait. Sinon, comme ça, on sera peut-être plus clair. De se former qui est en défaut, puisqu'en fait, du coup, c'est le pôle contenu ludique qui contrôle tout, en fait. Donc, du coup, au détriment, c'est toujours, en fait, dans cette conception-là, c'est toujours l'idée que si on est dans un point du triangle ou sur un des axes, en fait, l'axe ou le point opposé, en fait, est souvent mal fait, en fait. Hein. Voilà, c'est ce qu'il appelle, ou c'est faire le fou, faire le mort, en fait, ou faire le mort qui fait, enfin, faire le fou qui fait le mort. Donc voilà, si on est que dans le contenu ludique et qu'on se réfère qu'à lui, en fait, bah du coup, le processus de formation, il va être complètement mis en suspens, en fait. Du coup, alors c'est pas grave, mais ça prive peut-être d'une dimension intéressante de la constitution du savoir, puisqu'on va pas trop se confronter nos points de vue, nos techniques, en fait, voilà.
C'est bon. Ok, merci.
Alors, rapidement, dans les jeux sans MJ, les jeux MJ multiples et les jeux à MJ tournant, il y a un rôle particulier qu'on appelle le facilitateur ou la facilitatrice. Donc, c'est la personne qui a lu le livre, en fait, et elle ne va pas forcément prendre le rôle de MJ, quoi que ça soit possible, mais elle va surtout être là pour, un petit peu transmettre, expliquer le jeu aux autres. Et sinon, une autre marque, moi j'ai testé une méthode que j'appelle c'est une façon de scénario tutoriel, où en fait, j'ai une personne qui veut apprendre à maîtriser un jeu. Moi, je me place en position de joueur, et puis éventuellement, il va y avoir d'autres joueurs ou joueuses à côté, hein. Et en fait, alors que je joue un personnage et que la personne, l'apprenante, entre guillemets, elle maîtrise, eh bien, je lui explique ce qu'elle doit faire en tant que MJ au fur et à mesure. Quoi. Oui. Et il y a une deuxième couche, parce que généralement, ces parties-là, on les enregistre, on les met sur YouTube. Donc, ça sert aussi de support d'aide de jeu pour des personnes tierces.
Oui, parce que ça rejoint un peu ce que je disais avec l'idée que en fait, c'est à double sens. C'est-à-dire que du coup, là, il y a un retour vers le contenu, en fait, finalement, dans la reformulation. En fait. Voilà, je re-enrichis ce contenu a posteriori, en fait. Mais je sais pas, une autre question peut-être.
Tu as beaucoup parlé de la relation enseignant-apprenant. Et je me demandais quel effet ça a de mettre en avant cette relation sur le contrat social de la partie, notamment dans le sens où est-ce que toi, tu explicites que tu te poses en enseignant dans une partie, et deuxièmement, est-ce que tu as déjà eu, notamment pour le savoir-être, des apprenants guillemets, qui étaient réfractaires à ce que tu avais envie de leur transmettre, peut-être parce qu'ils ont déjà eu des expériences avant pour les anciens joueurs?
Bah oui, en fait, oui. Alors du coup, oui, j'applique ça en fait dans ma pratique, pour répondre à ta question, en fait, avec succès, je pense, en tout cas.
De manière explicite. Donc, oui, tu dis aux joueurs, explicite. Je vais vous apprendre.
Ouais. Mais, oui, oui, en fait. Alors pas en disant on va faire un cours ou quoi, en fait, mais dans l'idée, en fait, enfin voilà, il va y avoir quelque chose là. Je vais enseigner quelque chose, je vais vous montrer, ou si je me base sur quelqu'un d'autre, par exemple ce qu'on appelle un apprenant expert, en fait c'est un joueur qui est un peu plus avancé dans ses techniques, je vais lui dire, bah, il va t'apprendre, voilà, il va te montrer en fait finalement, et ça marche, hein, personne n'est réfractaire à ça, parce qu'en fait fin, au final, fin, c'est, tant que c'est pas fait dans un cadre infantilisant, il n'y a pas de problème en fait. Après, pour ce qui est des savoir-être justement, et de possibilité de réfractaire, enfin, de joueurs réfractaires à ça, oui, ça c'est un peu c'est un peu les, enfin, quand on travaille sur le savoir-être, de toute façon ça peut émerger. Quand, alors le savoir-être, généralement en fait c'est très dur selon moi de le formaliser dans le processus transmettre et apprendre. On peut le dire, on peut dire oui, ben voilà, il faudrait pour bien faire partie de la situation interactionnelle, il faut faire comme ça, il faut faire comme ci. Mais bon, là, pour vraiment le mettre en place, le mieux, c'est d'être dans le processus, se former, donc dans l'interactionnel, en fait, en lui-même. Et là, il peut y avoir des résistances qui sont à l'œuvre, en fait, parce qu'il y a des savoir-être assimilés, alors des savoir-être personnels et scolaires, en fait, en plus. C'est-à-dire que, effectivement, si je dis un jour, bah, là, en fait, tu vas passer sur le pôle de meneur, en fait, ou le pôle facilitateur, si je reprends ce qui a été dit avant. Il peut y avoir de la passivité, d'un seul coup une sorte de grande passivité qui s'installe dans le joueur, en fait, parce que justement, en fait, peut-être que dans sa conception de l'apprentissage, on lui a jamais appris à apprendre, justement, et donc du coup, en fait, c'est tout nouveau pour lui, et là, en fait, bah, la seule défense qu'il a, en fait, c'est de pas savoir faire, et donc du coup, il y a une paralysie qui s'opère, et justement, en fait, là, c'est là où peut-être l'idée de la décomposition du geste mental, elle va être utile, ou peut-être le faire travailler. Enfin, il va falloir trouver cette petite technique là que je disais parmi celles que j'ai données un petit peu, de qu'est-ce qui va débloquer en fait ce savoir-être, en fait, justement, qu'est-ce qui va l'amener à peut-être reconsidérer sa position pour faire le glissement, en fait. Voilà. Donc moi, c'est pas des résistances hostiles, généralement c'est plutôt des résistances passives, en fait. Voilà.
Qui se passe. D'autres questions, remarques?
Alors c'est juste un. Il y a quelques jeux.
Allô?
Je peux envoyer mon micro.
Il y a quelques. C'est bon là?
Oui.
Okay. Il y a quelques jeux qui apprennent à tenir un micro. Il y a quelques jeux qui intègrent justement des questions d'apprentissage directement pour l'apprentissage au meneur. Bon, il y en a un. Dans les récents Ryutama, qui est vraiment fait pour ça. Je vais plutôt parler d'un autre, du coup, qui s'appelle Prince Vaillant, ouais. Qui a été fait, où il y a justement des dispositifs pour que... Il y a un meneur principal, en fait, qui marche plus.
C'est pas j'entends.
Élèves, en fait, pour une scène,
ouais.
Par exemple, le fait de pouvoir maîtriser, de pouvoir corriger, de pouvoir résoudre,
il y en a pas 50, hein, mais il y a quelques jeux comme ça qui sont vraiment faits pour ce genre de truc. Le micro même pas, c'est ça? Ben, je l'aime pas non plus.
D'accord. Je ne savais pas, en fait. Hein. Je suis. Mais j'ai noté. D'accord. Après, ça, je pense que ça serait utile, hein, que ça soit plus acté dans les contenus et après bon voilà, c'est déjà fait, ce que j'avais dit sous forme de forum. Il y a une énorme réflexion analytique sur ça, en fait. Mais généralement, elle est très comment dire ça, elle est pas trop communiquée hors du MJ ou quelquefois du joueur. J'ai remarqué qu'il va s'intéresser vraiment à ça. Ça reste quand même très confidentiel et c'est pas transmis de manière officielle dans les jeux de rôle traditionnels. En fait, voilà, c'est un peu dommage.
Voilà. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions... Il y a plein de questions, donc... on va faire une pause, parce que Julien Mondel ne peut pas être parmi nous, donc du coup, il n'y aura pas son exposé. Voilà. Donc, ce que je propose, c'est qu'on fasse une pause, on reprend d'ici une demi-heure. OK ? Donc, vous pouvez poser les questions pendant la pause. Merci.